samedi 1er et dimanche 2 mars sur les 3-8. Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Un week-end pour écouter et questionner la culture et ses acteurs.
Radio Grenouille croise les sons et les regards sur l'histoire et l'actualité du hip-hop.
Des rendez-vous à partir de 9h le matin avec des mix,
des débats,
des interviews,
des sélections musicales,
une série de portraits de jeunes beatmakers marseillais,
des conférences,
des capsules sonores et du freestyle. Pour écouter battre le cœur d'un mouvement en constante évolution.
Marseille, sa production. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions, des millions.
Le samedi à partir de 17h, émission en direct avec de nombreux invités pour débattre, témoigner et faire du hip-hop jusqu'au bout de la nuit.
À suivre également sur le 88.4 de Radio Galère à partir de 21h avec l'émission Sam et Sam.
Dimanche à 17h, rendez-vous avec DJ Gel pour la mixtape du livre M.A.R.S. Histoires et légendes du hip-hop marseillais aux éditions Wild Project.
Plus d'infos et programmes détaillés à suivre sur le www.radiogrenouille.com.
Un bon sang brut pour les truands.
Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Un week-end imaginé avec La Franchie et Julien Valnet, auteur de M.A.R.S. Le samedi 1er et le dimanche 2 mars sur le 3-8. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille en direct pour cette émission spéciale dans le cadre du week-end Marseille Hip Hop 2014, état des lieux, état au pluriel entre parenthèses, parce que évidemment c'est limite ironique puisqu'on peut pas faire l'état des lieux du hip-hop mais plutôt vous proposer un ensemble de regards croisés autour de cette culture aujourd'hui, sur son histoire. Ainsi au programme de ce week-end, il y a pas mal de choses, on a pu écouter ce midi Imhotep et sa playlist aux sources du musical du hip-hop. Olivier Cachin et sa sélection dans les meilleures productions hip-hop marseillaises, ou encore par exemple un documentaire sur le festival Ouaga Hip-Hop au Burkina Faso. D'ailleurs, ce focus un peu africain continuera notamment demain soir avec une émission autour du hip-hop au Sénégal et un mix de hip-hop sud-africain. Et puis des témoignages, des rencontres avec des jeunes beatmakers marseillais à travers une série de portraits réalisés par Lionel Evrin et des rencontres notamment du côté de La Franchie qui réouvrait ses portes les 7, 8 et 9 février 2014 à Marseille. Ça s'appelait La Renaissance, on y était en direct et on y avait rencontré entre autres Solo, ex-membre fondateur d'Assassin, Alpha One ou Némir. Voilà, donc un programme très riche que vous retrouvez en intégralité sur le site de Radio Grenouille. Et là nous sommes en direct ce samedi ensemble pour donc une longue émission. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas pu avoir tous les gens qu'on aurait voulu avoir, évidemment. On espère que certains sont quand même à l'écoute. Et la vitalité de cette culture à Marseille rend de fait caduque toute volonté d'être vraiment en exhaustif. Donc voilà, on tenait à présenter nos excuses à tous ceux qui ne peuvent pas être présents. Il y avait pas mal d'indisponibilité aussi. Il y a de l'actualité hip-hop ce soir à Marseille, mais tout le week-end, on en reparlera plus tard. Mais on a quand même le plaisir de recevoir pour quelques moments de débat et d'échange plusieurs acteurs, observateurs, opérateurs privilégiés du hip-hop, de ce mouvement culturel, pour témoigner, je vous disais, de son histoire et de son actualité, plutôt sous un angle social, plutôt sous un angle esthétique. Voilà, je vais pas vous lister tout le monde, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure dans le studio, mais je vais d'abord introduire Julien Valnet au micro. Bonjour Julien.
Salut Stéphane.
Puisque ton livre M.A.R.S. sorti aux éditions Wild Project, sous-titré Histoires et légendes du hip-hop marseillais, sorti l'année dernière en 2013, a été l'un des déclencheurs de cette envie de proposer ce programme radiophonique aux auditeurs de La Grenouille.
Exact, oui.
Donc on a travaillé là-dessus un petit peu ensemble, tu as livré là voilà une somme qui sans doute donnera lieu à de multiples explorations et approfondissements encore. Donc bravo pour ce travail, merci.
Merci à toi.
Et puis tu vas nous accompagner au long de cette émission un petit peu à ta guise en tant qu'électron libre et intervenant.
Je vais faire de mon mieux,
ok.
Ouais.
Également avec nous dans le studio, Gilles Roff. Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour.
Alors Gilles, tu es journaliste, notamment en ce moment correspondant pour Le Monde sur le sujet chaud des élections municipales. Journal, mais plus largement, tu travailles notamment pour Le Monde. Pour quels autres organes de presse est-ce que tu travailles?
Je suis journaliste indépendant là, depuis 7 ans, puisque avant j'ai fait une longue carrière au Provençal, à La Provence, et maintenant je travaille pour plusieurs supports, Télérama, Le Monde, Équipe Magazine, Le Canard Enchaîné, enfin voilà, j'essaye de multiplier les piges.
D'accord. C'est aussi parce que tu as assisté au début de ce mouvement qu'on t'a convié. Enfin, c'est surtout aussi.
Ouais, je suis le vieux.
Tu es le vieux un petit peu. Mais il y a pas mal de vieux là dans les studios de Radio Grenouille. On va recevoir. C'est vrai, des gens qui ont vu comment ça s'est déroulé au début ce mouvement à Marseille. Toi, pour ta part, tu étais encore jeune étudiant, je crois, et pas encore tout à fait journaliste. Si déjà, tu.
J'étais en chemin puisque j'étais pigiste déjà, mais j'étais surtout à l'école de journalisme de Marseille. Ouais. Donc ça, c'est les années, enfin milieu des années 80. Je suis très très mauvais avec les dates, donc je serais très très imprécis. Mais voilà, oui, j'étais. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment pas une culture hip-hop. Enfin, c'est difficile à dire. J'ai une culture rock, mais vraiment. Donc voilà, et c'est vrai que je me suis pris le hip-hop en pleine figure dans ces années-là. Ça a été vraiment un choc. Découverte absolue. Bon, je me classifie pas parmi les acteurs du hip-hop marseillais. Hein. J'en ai été un amateur et un observateur. J'ai été correspondant pour Groove sur Marseille pendant de longues années, puis pour Rap Mag un petit peu. Donc j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai beaucoup écrit. Voilà. J'ai fait des piges, ça m'a rapporté un peu d'argent.
Et à travers ta plume, il y avait vraiment une fenêtre pour le hip-hop marseillais dans les organes de presse nationaux aussi.
C'était presque étonnant. Avec le recul, je me dis qu'il s'est passé un truc là, pendant ces années-là où les médias nationaux, en tous les cas spécialisés, mais aussi les médias nationaux généralistes, ont eu une envie de hip-hop marseillais irrépressible pendant quelques années.
Les années 90 en l'occurrence. Hein, ouais. Là, ouais.
Et c'est vrai qu'on a vécu plusieurs vagues. On a vécu, bon, bien sûr, la vague IAM, la vague Funky, et puis la vague Psychiatre. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu décroché après, enfin même beaucoup décroché maintenant. Mais voilà, ces trois vagues, moi, je les ai vécues vraiment fortement en tant que professionnel du journalisme, quoi, et en tant qu'amateur.
Alors, on va y revenir, mais juste pour revenir au début, tu as rencontré IAM dans les couloirs du métro.
Pas dans les couloirs, non, à la bouche du Free Time. Alors okay. Ouais, voilà, vraiment l'anecdote elle est comme ça, je descends la Canebière tranquille et je vois un groupe de gars assis sur les deux rampes en alu, là, en inox, qui se font face des deux côtés de l'escalier. Et en passant, je les entends rapper, quoi. Et j'avais déjà évidemment entendu du rap américain et tout ça. Et là, je reste un moment. Donc j'étais à l'école de journalisme à l'époque. Je reste un moment, j'écoute. Il y a Chill, que je sais pas, dont je ne connais pas l'identité. Il y a Joe, il y a tous les autres, quoi. Et sauf Imhotep, bien sûr, qui lui avait un travail à l'époque. Et donc, je les entends, je les écoute, et puis curieux, je vais tchatcher avec eux, quoi. Et ça a été ma découverte d'IAM, bon, ma découverte du rap marseillais, clairement. Et à partir de là, j'ai suivi un petit peu tout et j'ai fait mon mémoire d'école de journalisme sur le rap à Marseille. Ça n'a pas été facile à vendre au sein de l'école de journalisme, quoi, parce que c'était vraiment un sujet un peu étonnant et que personne ne maîtrisait.
C'est la fin des années 80, donc quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, 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 fait, ouais.
Et voilà, et après, bon...
Tu l'as encore quelque part, ce mémoire?
Ah oui, bien sûr, il est à la bibliothèque de l'école de journalisme, puisque j'ai eu des jeunes journalistes là, qui l'avaient vu et qui m'en ont parlé.
Tu as eu l'occasion de le lire, Julien, toi?
Ben non, justement, là, toi, mais on en découvre tous les jours. Je me dis, merde, encore une piste que j'aurais pu explorer et qui aurait été super intéressante, parce qu'en plus, c'est une période où il y a peu de sources écrites. Il y a des témoignages oraux, mais qui datent maintenant de plus de 25 ans. Et ils sont tout à fait valides, mais c'est vrai que si j'avais pu recouper... J'aurais été heureux de le lire.
Je vais t'en donner un exemplaire, promis.
Avec plaisir.
Tu cites plusieurs fois des organes de presse de l'époque, Tactique notamment, Julien, ou Gilles Officier aussi, qui suivait.
Non, tu n'as pas suivi Tactique.
Ah, d'accord, pardon.
Ouais, Tactique, ça aurait été avec plaisir.
Tactique, ça a été vraiment la grande source qui, moi, m'a permis de recouper, tu vois, aussi de retrouver les dates des concerts, notamment. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai cherché Tactique, il est à la bibliothèque de l'Alcazar, mais il fallait que je... Enfin, j'avais essayé un après-midi avec un appareil photo, tu vois, et j'ai trouvé un universitaire qui les avait déjà traités, photocopier tous les articles musique et qui s'est proposé de me les prêter pendant quelques mois. Alors c'est vrai que ça m'a vachement aidé.
Alors Gilles, oui.
Ouais, on peut revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de source écrite. Moi j'ai vraiment l'expérience de cette période-là où en tant que jeune pigiste, notamment au Provençal, quand on proposer des sujets autour des groupes de rap, on se faisait rembarrer, mais d'une force incroyable, quoi. Et les gens rigolaient. Voilà, vous expliquaient que c'était pas... Bon, déjà, c'était pas pour le lectorat du Provençal, ce qui était encore à démontrer, et vraiment que ça intéressait personne, quoi. Et il a fallu, je pense, le premier petit déclic, c'est l'histoire du concert de la première partie de Madonna d'IAM. Et là, d'un seul coup, les gens qui géraient les journaux se sont dit « Ah ouais, peut-être que finalement il se passe quelque chose et on pourrait peut-être regarder un petit peu ». Bon, ça a pas été la vague, hein. Ça a toujours été très difficile de vendre des sujets sur le hip-hop dans la presse généraliste locale.
Et tu parlais après de... Au contraire, une vague où nationalement, bon, y a des magazines spécialisés qui se sont montés, qui, depuis, ont mis pour la plupart d'entre eux, je crois, la clé sous la porte, hein, quasiment.
Moi j'ai vécu la fin de Groove, ouais, ça a été une fin en queue de poisson. Ouais.
Donc, quel chemin parcouru entre. Et puis, on sait quand même que ce sont des. Enfin, maintenant, c'est plus ou moins entré dans les mentalités et dans les médias, cette culture-là. Tu hoches la tête.
Oui, je hoche la tête parce que
c'est. En faisant la moue, je voulais te demander justement dans quelle mesure tu penses que.
Il y a encore.
Les portes se sont ouvertes.
Les portes se sont ouvertes pour les artistes qui vendent des disques. Les portes se sont ouvertes pour. Pour l'appréhension de cette culture en global, mais j'ai pas l'impression que les portes se soient vraiment très très ouvertes pour les artistes de base, quoi, qui font toujours leur truc dans leur coin et qui ont du mal à accéder aux médias. Heureusement, maintenant, il y a les réseaux sociaux et tout ça qui permettent des choses beaucoup plus puissantes et rapides, mais les médias généralistes, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une attention toute particulière sur la culture hip-hop en France, quoi.
C'est vrai que suite à la fermeture des magazines spécialisés, ce qui a pris le relais, c'est plutôt des initiatives, c'est les blogs.
C'est le web,
Les radios sont toujours là, bien sûr, notamment.
Mais en tout cas, sur la grande presse, on va dire généraliste, Le Monde, Libération, d'autres, moi j'avais mobilisé cette source-là aussi pendant la recherche, et effectivement, tu trouves des articles sur IAM, FF, Psy4. Tu trouves pas grand chose d'autre sur le reste de la scène, et après tu trouves aussi des articles qui sont plus d'ordre sociologique, tu vois, sur le rapport au quartier, etc. Mais effectivement, il n'y a pas.
Après, il y a des journalistes comme Stéphanie Binet qui sont vraiment des gens qui sont totalement à même de raconter, de parler du milieu hip-hop, parce qu'elle connaît très bien ça. Hein. Elle a travaillé pour des journaux spécialisés, maintenant je crois qu'elle est encore au Monde. Vraiment, ça c'est des gens précieux qui arrivent à faire le relais. Mais sinon, dans les autres médias, même dans un média comme Libé, qui a quand même pas mal suivi le rap français pendant longtemps, c'est beaucoup plus compliqué que la World, par exemple. Ça passe beaucoup moins facilement.
Là on pourrait débattre longtemps, parce que c'est vrai que c'est intéressant ces cases là dans lesquelles les médias mettent les musiques aussi. Tu parlais de la World, ça ouvre un autre débat, mais je suis en discussion par SMS interposé avec Lionel Motzrick, qui est journaliste à La Provence, qui pourra sans doute pas venir, et qui me disait ce que tu dis, Gilles, est toujours malheureusement d'actualité, quoi. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement facile de...
Mais Lionel écrit pas mal de papiers sur le hip-hop.
C'est pas nécessairement toujours facile de faire des zooms sur des groupes ou un sujet sur le rap, même si dernièrement il signe un papier avec une interview d'Akhenaton notamment, mais bon, là j'imagine ça doit passer quand même bien.
Akhenaton, maintenant c'est devenu presque c'est people, quoi. Ouais. On n'est plus dans le hip-hop, tout le monde l'a repéré, les rédacteurs en chef des grands journaux savent qui il est. Moi très souvent on me demande de faire des interviews On me demande presque aussi souvent de faire des interviews d'Akhenaton que des interviews d'Eric Cantona, donc c'est pour vous dire que le personnage est devenu un personnage célèbre. Mais voilà, dès que vous leur proposez des gens moins connus, ça bute. Même Sopra, qui est quand même un énorme vendeur de disques en France, c'est plus compliqué, quoi.
Qu'est-ce qui t'a fait prendre tes distances avec ça, toi, Gilles? C'est plutôt pour des raisons professionnelles, une passion amoindrie peut-être aussi par rapport à...
Alors, si tu veux vraiment la vérité, musicalement, j'ai un peu décroché. Je suis revenu vers mes amours premiers, c'est-à-dire des choses plus rock'n'roll. Et peut-être aussi... J'ai eu l'impression que la surprise s'est moussée un petit peu dans la surprise et l'audace s'est moussée un petit peu dans le rap marseillais. Mon dernier grand choc, c'est clairement Sopra et les Psychiatres. Entendre cette voix complètement dingue, le premier album des Psychiatres, pour moi, ça a été vraiment une surprise, quoi. Une puissance, une force sur scène, etc., que j'ai pas retrouvé plus tard, et ce qui m'a poussé à décrocher, même avec IAM, j'ai beaucoup moins de passion pour ce qu'ils produisent actuellement, hein. Ils le savent, je leur ai dit, mais bon, j'adore toujours les personnes, quoi, mais c'est vrai que j'ai, voilà, mais ça c'est vraiment très très perso, quoi, c'est mon goût à moi, et c'est tout, quoi.
Maintenant que tu côtoies plus d'hommes politiques que de b-boys, peut-être.
Oui, sûrement.
Alors, sûrement. Une question que j'ai vraiment envie de te poser.
Il n'y en a pas d'ailleurs, un des b-boys en politique, c'est étonnant.
Oui, c'est vrai. Un jour peut-être. Mais demain c'est loin, comme dirait l'autre. On a l'impression que le hip-hop, malgré son inscription très forte et la vitalité de cette culture populaire, et particulièrement à Marseille, que c'est pour le monde politique en général, pas pour tous les institutionnels, parce qu'il y a quand même des chargés de mission après qui essayent de faire leur travail, etc. Mais globalement, c'est comme une sorte de réalité autre qui n'est même pas prise en compte véritablement.
Totalement, non, mais tu es totalement dans le vrai. Il y a eu c'est le moment du MIA, hein, clairement, où le hip-hop est apparu aux yeux de tous. Et d'un seul coup, tout le monde s'est dit, toutes les classes sociales, tous les âges et tout ça, ont été touchés pendant un moment par l'existence de cette culture. Et ça s'est refermé hyper rapidement, à cause du milieu hip-hop peut-être, à cause des a priori raciaux, sociaux, etc., sûrement. Et c'est vrai que le hip-hop a continué sa vie, même si elle était peut-être un petit peu moins dynamique qu'à certaines périodes, mais en tous les cas, il a continué sa vie tout seul dans son coin. Et oui, clairement, les politiques sont pas du tout... Les politiques et le monde de la culture, hein, plus globalement, sont pas du tout attirés, intéressés par ce monde du hip-hop. Ça, c'est mon analyse, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il se passe des trucs, mais même moi, hein, j'ai du mal à percevoir exactement ce qui se passe. Bon, c'est vrai que maintenant que la franchise a réouvert ses portes, on va peut-être voir plus facilement... On va avoir plus d'évidence à repérer ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est un pan de la culture marseillaise qui est totalement underground, quoi.
Mais toi, tu as l'occasion d'en parler avec les politiques de ça, ou même pas?
Non, je leur pose des questions politiques habituellement, donc Alors, pendant cette année capitale, on a beaucoup entendu le hip-hop est oublié. Bon, c'est vrai que si on regarde les programmes, il était évidemment oublié. Après, est-ce qu'il a été oublié sciemment, ou est-ce qu'il a été oublié à cause de circonstances diverses et variées, autant dues aux porteurs de projets qu'aux décideurs? Moi, je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une volonté très marquante. Mais en même temps, le hip-hop marseillais n'a pas de pouvoir de lobbying, n'a pas de pouvoir de s'imposer, n'a pas de... Alors les seules têtes, c'est clairement IAM. La Funky, ils vivent leur vie séparément. Sopra et les Psychiatres pourraient aussi avoir ce poids-là médiatique, mais bon, ils sont un peu moins repérés. Donc les seuls qui peuvent monter au créneau, ils l'ont fait, hein, tout au long de l'année 2013, mais bon, ça n'a pas suffi. Après, est-ce que le hip-hop est un domaine culturel qui passe dans les critères économiques, touristiques, qui ont beaucoup porté Marseille-Provence 2013? Peut-être pas.
Mais je suis pas sûr, moi, de ça. Je pense qu'il y a un attrait quand même, et que ça aurait pu être une carte parmi d'autres. Mais
la culture et ses réalisations, elles existent, elles ont marqué leur époque et elles continuent d'y en avoir, elles continuent d'exister. Mais c'est vrai que force est de constater quand même que s'il faut généraliser en matière de politique culturelle, c'est quand même une réalité culturelle qui est très peu prise en compte dans sa totalité, quoi.
Ouais. Je me souviens d'un papier qu'on avait fait à l'époque pour Géo et où on abordait ce côté tourisme hip-hop. Il y avait à l'époque, donc on revient toujours sur ces mêmes périodes, il y avait vraiment un tourisme de gars et de filles qui descendaient à Marseille parce que c'était la deuxième capitale du hip-hop en France, quoi, et qui venaient. Donc ça, oui. Mais est-ce que c'est le même niveau que les 2 millions de visiteurs du Mucem? Non, évidemment.
Ouais, merci à tous les deux. Ça me fait penser que d'ailleurs, peut-être un représentant de l'institution culturelle aurait été bienvenu autour de cette table aussi. Mais c'est vrai qu'on a privilégié les paroles d'acteurs et on va faire une courte pause, enfin une bonne pause musicale, avant de se retrouver avec d'autres témoins de cette première période, la naissance du mouvement hip-hop à Marseille et ailleurs. Marc Boudet, Lionel Fornini, Sik, et puis un plus jeune activiste, Pac Jean, qui est déjà dans les locaux aussi, ils vont nous rejoindre tout à l'heure au micro. On écoute ce qui ne demande aucune présentation.
Je vous prends tous ici. N'importe qui, je graine des gueules.
Début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid, scrutait la salle, le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, Cameo, Midnight Star, SOS Band, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le mire.
Oh mia,
je danse la mia. Je danse la mia.
Oh mia,
je danse la mia.
Mais
je
ne te parle.
Je danse la mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait le samedi d'après. On revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose.
Ah cousine, tu danses, je t'explose.
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère rappliquait.
Oh, comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait, fils, t'y a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Pas ton je brille, je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le mia. Même les voitures c'était le défi. KUX et 73 JM 120 mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mondiette. La main sur le volant avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky et Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille.
On dansait la mia.
Oh mia,
je danse la mia.
Approchez, on dégage.
Je danse la mia.
Oh mia,
je danse la mia.
Approchez, on dégage.
4, 2, 0, 3.
Ah merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore. Une Mister Flash Laser Lake Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique c'est Michel, le light choqué c'est Momo. On monte sur une table, on lève les bras bien haut. Allez c'est parti.
Je danse la mia.
Oh mia.
Je danse la mia. Je danse le mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient, les différences effacées et des rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées cache qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe aïe.
Je danse la mia.
Approchez en digue.
Je danse la mia.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tant pis le diable pour sortir de la galère, t'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussent, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger. En deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend tour de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI ici, ici, ici. Le rêve des jeunes c'est la Colt GTI, survêt Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi. Je suis plus malin, lui il crève à la fin, la fin, la fin, la fin. Justifie les moyens, 4 à 5 ou malsains. On tient jusqu'à demain, après on verra bien. On marche dans l'ombre du malin, du soir au matin. Tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin. Chemin, chemin, y'en a pas deux pour être un dieu. Frappé comme une enclume, pas tomber les yeux. L'envieux toujours en veut une route pour y entrer. 2 pour s'en sortir, 3 quarts cuir. Réussir, s'évanouir, devenir un souvenir. Souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire. Des carrés de la carte qu'on efface comme un tableau du pas où c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, on y passe notre vie, on y finit. Avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis. Fiction, des illusions trop fortes, sort le chichon. La réalité tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Les plombs, certains chanceux en ont dans la cervelle. D'autres se les envoient pour une poignée de bif. Ton guerre fraternelle, les armes poussent comme la mauvaise herbe. L'image du gangster se propage comme la gangrène. T'aimes ces graines, 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 graines de délinquants. Qu'espériez-vous, tout jeune en leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret au groupe organisé. La racine devient champ, trop grand, impossible à arrêter. Arrêter, poisseux au départ, chanceux à la sortie. On prend 3 mois le bruit court, la réputation grandit. Les barreaux font plus peur, c'est la routine. Vulgaire épine, finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime. Animé d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait. On jette le dé, faut flamber, perdre et gagner. Rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne ne demandera d'où ils sont tombés. Tombés ou pas pour tout pour rien, on prend le risque, pas grave cousin. De toute façon dans les deux cas on s'en sort bien. Vivre comme un chien ou un prince, y'a pas photo, on fait un choix. Fait griller le gigot, briller les joyaux, joyaux, un rêve, plein les poches. Mais la cible est trop loin, la flèche qui coche, le diable rajoute une encoche trop moche. Les mecs cochent leur propre case, décochent pour du cash. J'entends les cloches à coups de pioche, creuser un trou c'est trop fastoche. Fastoche, facile le blouson du bourgeois docile. Des mémés la hantise et porcelaine dans le pare-brise. Chaque rasoir sur le sac à main, par ici les talbins. Ça c'est toute la journée, lendemain après lendemain. Lendemain, c'est pas le problème. On vit au jour le jour, on n'a pas le temps. Ou on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur. Futur, le futur changera pas grand chose. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Notre avenir, c'est la minute d'après. Le but anticipé, prévenir avant de se faire clouer. Clouer, clouer sur un banc, rien d'autre à faire. On boit de la bière, les gazières qui n'ont pas de fer. Les murs nous tiennent comme du papier. Tu mouches, on est là, jamais on s'en sortira. Satan nous tient avec sa fourche, fourche enfourchée. Les risques, seconde après seconde, chaque occasion est une pierre de plus ajoutée à nos frondes contre leur laser. Certains désespèrent, beaucoup touchent terre. Les obstinés refusent le combat suicidaire. Sidère, sidéré, les dieux regardent l'humain se diriger vers le mauvais côté de l'éternité. D'un pas fermé, décidé, préférant rôder. En bas, en haut, on va s'emmerder. Y'a qu'ici que les anges vendent à fumer, fumer. Encore une bouffée. Le voile est tombé, la tête sur l'oreiller, la merde d'un instant estompée. Par la fenêtre, un coup fait son entrée, un homme se fait braquer, un enfant se fait serrer. Pour une quartier menottée, menottée, pieds et poings liés par la fatalité. Prisonnier du donjon, le destin est le geôlier. Le turf, la reine. On a grandi avec les jeux, gladiateur courageux, mais la vie est coriace, on lutte comme on peut.
Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légende et mythe débile. Hachi Shokido, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo, Safino, bloc 20, pack de Anakin dans les mains. Oublié en tirant sur un gros joint. Princesse d'Afrique, fille mère plastique, plein de colle, raclo à la masse lunatique. Économie parallèle, l'équipe dure comme rock. Petit don qui contrôle grave leur spot. On pète la veuve Clico, parqué comme à Mexico. Horizon cimenté, pickpocket toxico. Personne honnête, ignoré, super flic Zorro. Politicien et journaliste en visite aux zoo. Musulman respectueux, père de famille humble. Basse qui blaste ma musique de la jungle. Entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuée de gosses qui viennent gratter, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot improvisée sur le bitume, golf VR6, pneus qui crisse, silence brisé par les sirènes de la police, polo façonnable, sur vêtements minables, mère au trait de caractère admirable, chichon bidon, histoire de prison, stupide division, amas de 10 ans. Au cliché d'Orient, cuisine au piment, joli nom d'arbres pour des bâtiments dans ma forêt de ciment. Désert du midi, soleil écrasant, vie la nuit. Pendant le mois de Ramadan, pas de distraction, secret et un peu d'action. Jeu de dés de contrée, Paris d'argent, méchante attraction. Rire ininterrompu, arrestation impromptue, maire d'arrondissement corrompu. Marcher sur les seringues âgées, rêver de voyager, autoradio en affaire, l'eau de chaîne arrachée. Bougre sans retour, psychopathe sans pitié. Meilleur lien d'amitié qu'un type puisse trouver. Génie du sport faisant leur classe sur les terrains vagues. Nouvelle blague, terrible technique de drague. Individualité qui craque parce que stressé. Personne ne bouge, personne ne sera blessé. Vapeur d'éther, d'eau écarlate d'alcool. Fourgon de la Brinks maté comme le pactole. C'est pas drôle, le chien mort enfermé dans la cage. Paf de rage, les barreaux grimpent au deuxième étage. Il est du hachis, c'est sage. Si tu veux sortir la femme, si tu plonges la ferme, y'a pas de drame. Mais les l'école est pas loin, les ennuis non plus. Ça commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vue. Regarde la rue, ce qui change, y'a que les saisons. Tu bats du béton, crache du béton, chie du béton. Te bats pour du laiton, mais est-ce que ça rapporte? Regrette pas les bifetons qu'on abat, frappe à la porte. Trois couleurs sur les affiches, nous traite comme des bordilles. C'est pas manioqué, mais les cigarettes se torpillent. Coupable, innocent, ça parle cash de pourcent. Œil pour œil, bouche pour dent, c'est stressant. Très tôt, c'est déjà la famille dehors, la bande à cadère. Va niquer ta mère, la merde au cul, il parle déjà de travers. Pas facile de parler d'amour, travail à l'usine. Les belles gazelles se brisent les chines dans les cuisines. Les élus ressassent rénovation, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Feu les rêves, gis enterrés dans la cour. À 12 ans conduire, mourir, finir comme Tupac Shakur. Mater les photos, majeur au jour du poteau. Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto. Une fois tu gagnes, mille fois tu perds. Le futur c'est un auto. Pour ce je dédie mes textes en qualité d'ex-voto. Mec, ici t'es jugé à la réputation fortement que toi et tous les jours les bougres pissent sur ta porte. C'est le tarif minimum. Et gaffe, ce qui pèse transforme le secteur en oppidum gelé. L'ambiance s'électrise, y'a plein de places assises. Béton fige fait office de froide banquise. Les gosses veulent sortir, les noms tombent comme des massues. Les artistes de mon cul pompent les subventions des SU. Tant d'énergie perdue pour des préjugés indus. Les décideurs financiers plein de merde dans la vue. En attendant les espoirs, foire capote certains rap. Les pierres partent, les caisses volent et dérapent. C'est le bordel au lycée, dans les couloirs on ouvre les instincteurs. Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs. Le dos à un œil, car les os sont truffés d'écueil. Recueille le blé, on joue au dé dans un sombre cercueil. C'est trop, les potos chient sur le profil Roméo. Un choc de popo, faire les fils et un bourreau des hauts. La vie est dure si on veut du rêve. Ils mettent du pun dans le shit et te vendent sa rame se lève. Tu me diras, ça va, c'est pas trop. Mais pour du tcherno, un hamidou quand on a rien, c'est chaud. Je sais de quoi je parle, moi le bâtard. J'ai dû fêter mes 20 ans avec 3 bouteilles de Bad Star. Le spot pousse ce soir, qui est le king d'entrée. Les murs sont réservés comme des places de parking. Mais qui peut comprendre la main pleine? Que dit Papou frappe sec, poussé par la haine. Et qu'on ne n'est pas programmé pour faire un foin. Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin.
Thank you.
écoutez bien le 88.8 de Radio Grenouille en direct. C'est l'émission spéciale autour de dans le cadre de ce week-end hip-hop sur les ondes des 3-8. Et vous venez d'écouter, après la conversation avec Gilles Roff et Julien Valnet, Gilles Roff qui est parti, on vient d'écouter... on parlait des sources, alors on s'est dit IAM, et puis il y avait le MIA qui était donc un peu le moment du déclencheur de l'accession de cette musique-là vraiment aux clés de la culture populaire, on va dire, en tout cas du point de vue de sa diffusion dans les médias. Et puis Demain c'est loin, enchaîné, parce que voilà, c'est un titre vraiment plus considéré par les puristes comme plus authentique, pas de refrain, et au moins 7 minutes de pur rap par AKH et Shuriken, donc I Am. J'ai été rejoint dans le studio, alors Julien Valnet, l'auteur de MARS, est toujours là avec nous,
ouais.
Et on a été rejoint dans les studios par Lionel Fornini. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Qui est une des multiples chevilles ouvrières, je veux pas être péjoratif, de ce mouvement qui est cité notamment dans ce livre MARS, et notamment autour d'un lieu dont je parlais tout à l'heure, La Franchie. Également autour du micro, Pac Jin, bonjour.
Bonjour.
Qui est danseur. Tu danses encore?
Non,
tu danses plus. Hein. Donc maintenant, c'est derrière les platines et derrière les machines.
Voilà, derrière les machines.
DJ et beatmaker, notamment pour le groupe La Méthode.
C'est exact, c'est ça.
Et on est également avec Sik. Bonjour Sik.
Bonjour.
Que les amateurs de graffiti connaissent bien, et dont les autres ont sans doute déjà lu le nom sans savoir nécessairement qui c'était. Sik, toi, je crois que tu as commencé quand à graffer? T'es considéré parmi les originaux du graffiti à Marseille. Ça a commencé quand pour toi?
1987.
Donc là, pour témoigner aussi de ce pan-là de la culture hip-hop à Marseille. Et puis, je me tourne à ma droite, Marc Boudet. Bonjour Marc.
Bonjour Stéphane.
Le Parisien du plateau.
Merci.
Tu es originaire de Paris, c'est ça?
Non, je suis
de Marseille, d'accord.
Des Chartreux.
Alors, il se trouve que tu étais à Paris dans les années 80. Tu nous expliqueras peut-être pourquoi, et que tu as assisté aussi à la naissance de ce mouvement du côté du terrain vague près de Stalingrad, du côté du Globo. C'est d'ailleurs des choses que... tu étais déjà un peu journaliste à l'époque, Marc?
J'étais journaliste, oui, en presse africaine.
Et d'ailleurs, on t'a entendu parfois aux platines jouer des musiques, diverses musiques du monde qui groovent aussi dans le secteur. Mais à l'époque, donc, tu as été témoin de cette ébullition culturelle qu'il y a eu à Paris. Est-ce que tu peux nous préciser le cadre? C'est en quelle année exactement?
Alors moi, j'ai été sur le terrain pour la première fois en 85. Et j'ai rencontré Jewan Ramier, qui fait partie du collectif des BBC. On est devenus copains, et c'est comme ça que j'ai connu le terrain vague, et puis par la suite le Globo, qui est une conséquence du terrain vague.
Voilà. Alors, cette période a été documentée l'année dernière dans un livre qui est sorti, qui s'appelle Mouvement.
Oui, alors on a sorti le bouquin en 2012, on avait des documents. Mon frère m'a envoyé un ami japonais qui voulait faire de la photo à Paris, et ensuite je l'ai amené sur le terrain parce qu'il savait pas quoi photographier, et finalement il est devenu ami avec Jackie, et il a fait beaucoup de photos du terrain, de différents graffeurs. Et
alors le terrain dont tu parles, vas-y, précise un petit peu s'il te plaît.
Terrain vague de Stalingrad, entre les métros Stalingrad et la Chapelle, Paris 19e.
Le bouquin est sorti chez quel éditeur?
Il est sorti chez les éditions 1980, mais ils n'ont plus les droits. Et là, il est épuisé. Il va être réédité d'ici peu de temps, je pense, aux éditions La Vigne, qui est une galerie d'art. On a tout fait par nous-mêmes, et on a cherché à être le plus indépendant possible pour faire la maquette, et puis pour pouvoir faire comme on avait envie de faire et présenter les choses comme on avait envie de les présenter.
Alors nous, on a récupéré quelques photos de ce bouquin que vous pouvez voir dans un album qui est sur via le Facebook de Radio Grenouille. Il y a quelques
merci,
clichés du livre. Mouvement que vous pouvez regarder en écoutant cette émission. Il y a le Facebook, donc la page Facebook de Radio Grenouille. Vous discutiez tout à l'heure avec Sik, là, juste avant qu'on prenne l'antenne, et vous étiez vraiment en train de dire que... Enfin, j'ai l'impression que ce qui caractérisait les débuts de ce mouvement, notamment quand on parle de Paris, c'est que c'est vraiment parti de rien, c'est ça. Le hip-hop, c'est ça, c'est parti de rien, de gens qui n'avaient rien, et qui ont construit quelque chose autour de cette expression. ces expressions culturelles et de toute cette activité qu'il pouvait y avoir autour. Ce qui caractérisait cette période-là, c'était ça, non ? C'était le faire les choses, apprendre à faire les choses en les faisant et y aller à fond, quoi.
Il y a une sorte de convergence d'énergie de gens qui pensaient un peu la même chose, qui avaient à peu près les mêmes valeurs culturelles, le même trajet culturel, et ensuite certainement la conviction que il fallait changer quelque chose, il fallait avancer quelque part, donc... ça part de rien, et ils ont besoin de rien, et ils ont fait tout sans personne, hein, sans la presse, sans personne. Ils ont été longtemps, le mouvement hip-hop parisien, il était ignoré, littéralement. On n'a pas pris ça en considération, on a dit que c'était une mode, hein, et puis ça a continué finalement, et puis ça a généré l'industrie que l'on connaît aujourd'hui.
Toi, tu as suivi ça de près pendant combien de temps, Marc ?
Je suis resté à Paris de 84 jusqu'à 88. J'ai quitté le journalisme à cause de ces photos.
C'est vrai, comment ça ?
J'ai essayé de vendre les photos, mais j'y suis pas arrivé.
D'accord.
Personne n'a voulu les voir.
Ok. Retour à Marseille ?
Retour à Marseille, disque jockey.
D'accord. Et le hip-hop, maintenant, tu le regardes de loin alors ? Ou tu te sens toujours concerné ? Quel regard tu as aujourd'hui ?
J'écoute toutes les musiques, moi. Donc si je tombe sur du bon hip-hop, il y en a beaucoup peut-être, mais si je tombe sur du bon hip-hop, je vais le prendre aussi, hein, sans problème. Mais bon, j'écoute de tout.
Alors il y a une connexion, il y a des connexions Paris-Marseille évidemment, parce que on dit alors Paris, les choses sont passées comme ça, Marseille, les choses sont passées comme ça. Évidemment le hip-hop, tout comme tu le montres dans ton livre Julien, il y a le lien Marseille-New York qui existait aussi, ça se passe avant tout par des gens qui se rencontrent, qui discutent, qui échangent des choses, qui échangent des disques, qui échangent des infos, enfin bon voilà, c'est d'abord ça qui fait que le mouvement il circule et il naît. Lionel Forni, t'allais intervenir.
C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une histoire de réseau. Tu vois, le résumé sur deux places fortes qui sont Paris et Marseille, c'est un peu limitatif, enfin, c'est très restrictif même. Parce que dès que, notamment à l'époque, hein, je sais pas, quand je dis à l'époque, c'est. Quand parce qu'on parle bien de hip-hop, hein, on parle pas que de rap, hein, donc l'ensemble des arts, tu vois. Le réseau, il était très étendu. Il y a des villes comme Lyon, par exemple, où il y avait un énorme réseau. Au niveau de la danse, au niveau du graphe, au niveau des radios, au niveau de tout ce qui était les outils, on va dire, de transmission culturelle. Tu vois, il y avait des espaces, voilà. Moi, je trouvais plus qu'à Marseille, en fait.
Tu parles
on va être entre nous, tu es d'accord ?
Tu parles de quelle époque, là, Lionel ?
Oh, les années, je sais pas, je pense à la... moi aussi, j'ai un problème de date, là. Il disait Gilles tout à l'heure, mais ça, c'est... Mais
à l'époque où toi tu étais mobilisé sur la franchise,
on était activiste, voilà, tu vois. Donc c'était, ça devait être quand on a commencé à tourner pour essayer de faire la promo de l'album La Franchise, donc 99, tu vois. Là on s'est rendu compte, à l'époque il y a Ambroise qui est témoin de cette période, il y a des mecs comme Bam, tu vois, on improvisait. C'était le début, on avait les portables quand même, tu vois, mais on improvisait, on savait pas. Ce soir on était à Chambéry, demain on savait pas où on était. Et de réseau en réseau, on a fait quand même tout le tour de la France. Donc, pour te dire que c'était très actif. Voilà. Après, en dehors des places fortes, Marseille, ouais. Paris. Donc, c'est une histoire de
moi-même,
réseau.
Moi-même, j'ai fait la déformation des journalistes.
Non, on mais en c'est pas une déformation, c'est normal. Il faut arriver à synthétiser les choses.
Bien sûr.
Mais ceci dit, les Hollandais, les échanges qu'on faisait à l'époque, ouais, avec les Hollandais, avec les Espagnols, avec les Allemands. Histoire de réseau, tu vois, j'ai plus fait des trucs des fois underground, mais quand même sur des réseaux à l'extérieur de même du territoire français, alors que c'est des places, elles sont jamais nommées. Pourtant, il y a des mecs qui font... Voilà, c'est toujours pareil, c'est une histoire de réseau, je pense, plus que...
De réseau et de plaisir aussi, hein.
Mais tout à fait, mais il était créé par ça. Là, maintenant, on dit le mot réseau, mais nous-mêmes, on sait qu'il n'y avait pas ni les Facebook, ni les réseaux sociaux, beaucoup moins l'utilisation du portable et de... Ceci dit... regarde la quantité de matière produite par des individus avec ce que tu disais tout à l'heure, les convergences d'énergie. Voilà, ça.
Toi, tu voudrais évoquer ce que vous disiez tout à l'heure avec Marc, ce personnage Salim, c'est ça ? Vous parliez de. de...
Oui, c'est l'une des personnes qui a cimenté les esprits de collectif. Bon, lui, il était très fort en beatbox. Moi, j'ai pas connu Salim à cette époque sur le terrain. Je le fréquentais pas, mais je l'ai connu par la suite par l'intermédiaire de Jackie Ramier des BBC. Et c'est vraiment une personne admirable, quoi.
C'est qui que tu disais avoir rencontré également à l'époque de X-Mob, tout ça, Sick qui...
Je parlais des Buffalo.
Ah,
en fait.
Des Buffalo, ouais. Ok.
Donc Jacques et Papy, qui étaient deux Parisiens qui sont arrivés ici, qui ont fait un magasin, qui était le premier magasin hip-hop de Marseille, et qui ont fait des rues derrière eux, pas mal de monde, et surtout qui ont quelque part montré la voie un peu, dans le sens où moi, par exemple, quand je commençais à peindre, ils m'ont fait faire la devanture et c'était eux qui me faisaient les lettres, etc., etc. C'était des gens qui étaient quand même vachement en avance par rapport à nous. Où nous, petits Marseillais, si tu restais dans ta ville, t'avais pas grand-chose sur lequel t'inspirer. Et effectivement, je suis complètement d'accord, c'était une histoire de réseau. Moi, j'avais des liens avec pas mal de Lyonnais. Ils étaient énormément en avance sur eux, ils étaient plus nombreux. Entre guillemets, ils avaient plus de style. Je parle de ma partie, hein, ouais. Pour ce qui est du graffiti. Et ça, c'est des choses qui sont un peu inconnues. On parle souvent du rap, des connexions qui ont pu se faire, Marseille, Paris, rap attitude. Entre autres, mais si on veut parler de culture, il faut parler donc du reste. Et ça, c'est des liens qui sont faits effectivement avec les Hollandais de Groningen, ouais, la Zulu Nation des Belges, tous ces gens-là.
Et Zona Bruta en Espagne, tu vois, des réseaux, voilà. Qui
sont... Tu parlais de Chino tout à l'heure. Vous parliez de Chino tout à l'heure, qui était le premier graffeur marseillais. Vous pouvez expliquer un peu qui il était, ce qu'il a apporté.
Moi je veux bien. Chino, indépendamment d'être graffeur, si tu veux, on était aussi ensemble dans un groupe qui s'appelait Damayor, donc avec. Tu as largement abordé dans ton bouquin. Quoi. Chino, il était. Voilà, lui, c'était exactement la convergence de toutes ses énergies, tu vois, parce qu'il était multicarte dans sa création. Et voilà, et effectivement, Sig disait, c'est la première pièce posée. À Marseille, elle est, on va dire qu'elle est identifiée Chino, quoi. Voilà.
En 1983.
83. Ouais, premier graphe à Marseille, Chino. D'accord. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est devenu?
Chino depuis est décédé, quoi. Il est en 2012. Voilà. Entre temps, il a fait beaucoup de graphes, beaucoup de sculptures, il rappait au sein du collectif d'Amayor, tu vois. Et puis ensuite beaucoup de 3D, plein de choses, voilà. Et beaucoup de sons aussi, parce que c'était un sacré guitariste, voilà. Donc c'était un personnage, tu vois, ça fait partie des personnages clés pour beaucoup de personnes, hein, de la culture hip-hop. Montrer la voie, je sais pas, parce que tu vois, il y a aussi maintenant, on voit les voies tracées, mais au départ, il n'y a pas pour vocation, à la limite, de montrer une voie. Tu vois, au départ, tu as pour vocation de kiffer les choses que tu fais, de te rendre compte que, comme tu disais, d'un coup, il y a eu cette espèce de... Il y a une émulation, on aurait dit qu'on avait été tous frappés par un truc presque mystique, tu sais, où on se comprend, on a envie de kiffer, on a envie de faire des choses, etc. Et... C'était fait, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux
Ouais, c'est rétrospectivement...
Voilà, après tu crées une voie, un sillon. Voilà. Mais après, est-ce qu'il y avait la volonté de... Ceci dit, dans ses actions, il était très respectable. Donc forcément, ça fait aussi... parce qu'il y a ça aussi, la façon d'aborder même politiquement les choses, tu vois. Parce qu'on parle de la culture hip-hop, artistiquement parlant, mais politiquement, il y a plusieurs pans, hein, dans cette... et voilà. Donc Chino, il représentait... C'était un bon condensé de ça, tu vois. En plus, il était très fort en wushu, et ça, c'est... c'est bien, quoi.
Julien, tu voulais développer ?
Non, mais tu parles de contenu politique. Alors, sans rentrer dans le truc, mais c'est vrai qu'on parlait un peu de l'émergence dans les années 80. Moi, j'ai l'impression que c'était une époque un peu, quand même, quelque part, il y avait un truc qui n'était pas politique direct, mais toi, c'était un peu punk. Toi, il y avait un côté do it yourself, alternatif. Toi, il y avait et ça, c'est un truc qui m'a frappé, moi, qui vient plutôt aussi du rock... à la base. Et j'ai retrouvé un truc qui était pas loin de ce que j'avais pu aimer dans les BRU, par exemple.
Je peux te dire une chose, tu sais que le groupe Run DMC, il utilise des bases de rock, et je peux te dire une chose, c'était le groupe préféré de J1, hein, il écoutait ça sans arrêt, et c'était du rock, hein, on peut dire que c'était du rock. Et ensuite, il y a énormément de gens comme Mod 2, il vient du mouvement punk, lui, londonien. Donc, en fait, ça s'est délité un petit peu sur les extérieurs, et puis ça s'est rassemblé sur la jeunesse, sur les esprits, l'ouverture des esprits et sur le hip-hop, finalement, je pense.
Il y a une autre galerie qui est visible via la page Facebook de Radio Grenouille, c'est le crew 132 qui nous a livré une série de photos. Donc il y a un très bel album de photos de leur graphe dans la région marseillaise, c'est un des crews très actifs. Et je voulais demander à Sik, qui est toujours avec nous là en plateau, en direct sur les 3-8, par rapport à ta discipline, le graffiti, cette émulation qu'on pouvait sentir au début, aujourd'hui, bon, on parlait du rap qui a accédé un petit peu à la culture médiatisée, tout ça. Pour le graffiti, ça a été un petit peu le cas, mais on a l'impression que c'est vraiment resté très underground. Qu'en est-il aujourd'hui et de ce côté underground et de, est-ce qu'il y a toujours l'émulation, l'ébullition et des jeunes qui viennent prendre le relais aussi?
Alors c'est un peu différent. Au niveau de l'émulation, ce que tu viens de dire... On a d'un côté un certain nombre de graffeurs qui font maintenant des parcours dans l'art contemporain, qui sont des artistes extrêmement bien cotés. Tout ça, ça existe. Donc, quelque part, il y a eu une reconnaissance à ce niveau-là. Même si...
Alors, ils continuent à faire du graffiti proprement dit, ou à mixer leur technique.
Certains oui, d'autres non. Tout ça est assez large. T'as d'un côté ça. D'un autre côté, t'as, on va dire, les vandales, entre guillemets, où ça, il y a eu un boom, littéralement, où maintenant, t'as une prise de risque qui est beaucoup plus importante, parce que la répression, la loi est beaucoup plus sévère. Donc, c'est parti un peu dans les... comment dire, les choses sont extrémisées.
D'accord.
En fait. Donc tu vas avoir des condamnations très fortes, t'as des mecs régulièrement qui partent en prison, qui se retrouvent avec des amendes à 5-6-0. Tout ça, évidemment, ça n'existait pas. À l'époque, quand un flic t'attrapait, il disait bah, « qu'est-ce que tu fais ? Rentre chez toi » ou à la limite, mettez deux claques et puis c'était fini. Or maintenant, tout ça est beaucoup plus extrême. Donc, alors...
Et sans solution en plus, parce qu'il n'y a pas de solution.
Et il n'y a pas de solution, effectivement. Parce que, quelque part, il faut comprendre les pouvoirs publics. Et, une ville qui est recouverte de tags, bah, ça ne plaît pas aux citoyens, donc ils sont obligés de répondre à ça, évidemment. Alors, la réponse qui est faite en... que les pouvoirs publics ont essayé de faire, dans un premier temps, c'était de donner des espaces... privilégiés pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent s'exprimer, mais ça n'a jamais marché parce que l'esprit même du graffiti,
c'est d'aller dans des endroits où
c'est
on
un esprit
pas
de liberté où on te dit pas ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Donc bien sûr, ça n'a pas marché. Alors il n'y a pas qu'en France, hein, à peu près partout, ils ont essayé de faire la même chose. Par contre, d'un autre côté, le graffiti à la base, il se cantonnait plutôt dans des terrains vagues et sur le métro. Et ce qu'on peut observer, c'est que... Ou sur les trains. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'à partir du moment où il y a une répression sur les métros, sur les trains, et ben là, les mecs vont aller dans la rue et tu te retrouves avec des rues recouvertes de tags. Et ça, c'est partout. Ça a été à New York pour commencer. C'est en France maintenant. C'est général.
Je vous propose une parenthèse musicale avant de continuer avec vous si vous voulez bien et sans doute d'autres invités qui sont en train d'arriver dans les locaux de Radio Grenouille. On est toujours en direct pour cette émission spéciale dans le cadre du Weekend Hip Hop.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch then fight.
Hey, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing while the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcium, that's a rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange.
People, people,
we all the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless.
You say, what is this?
My beloved, let's get down to business, mental self-defense or fitness.
Don't rush the show.
In order to fight the powers that be.
Fight the power.
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 We got to fight the powers that be.
Public Enemy, Fight the Power, en illustration musicale de notre conversation qui en était à parler de l'univers du graphe, et puis ça continuait en off évidemment dans le studio et dans l'entrée de Radio Grenouille où nous sommes en direct autour du tag. Et Marc Boudet, selon toi, le tag c'est un antidote à l'urbanisation de l'environnement, c'est ça?
Mais dans l'urbanisation policée qu'on veut nous faire avaler, qui est une sorte de pensée unique de l'architecture à un moment donné, On peut pas demander à des gens de fermer leur gueule et de ne pas s'exprimer un petit peu quelque part. Alors, t'as les gens qui taguent bien, t'as les gens qui taguent mal, mais celui qui écrit un truc sur un mur, il le fait bien pour une raison précise, quelque part, hein, pour exister peut-être déjà. Et il faudrait voir qu'il y a... On n'a pas voulu voir les gens du hip-hop quand il y avait l'émission de Sydney à chipper, à choper à la télé. On a dit, il y avait que des Noirs et des Arabes, tu comprends, et à un moment donné, ça a fait tâche, peut-être, mais ils étaient là, hein. Ils étaient là, on n'a pas voulu les voir, mais regardez ce que ça a donné maintenant. Ils sont toujours là, mais ils sont encore plus forts, ils sont encore plus importants, et ça pose un tas de problèmes, mais il fallait les voir à ce moment-là. Si on ne reconnaît pas les gens, si on les nie, ben, à un moment donné, il y a ça. Alors moi, je pense qu'il y a des solutions alternatives, mais elles sont politiques. Regarde ce qui se passe à Vitry, on a un peintre qui s'appelle 215 qui est venu faire beaucoup de peintures sur les murs marseillais. On a effacé toutes ses œuvres, il suffisait de les encadrer avec un plexiglas, hein. C'était aussi simple que ça, hein. Et puis on avait un truc.
Et combien ça coûte, hein,
et combien 215 ça coûte, voilà, et combien ça, ouais, coûte, voilà, combien ça coûte. Alors là, il y a encore, vu les chiffres du nettoyage sur Marseille, 2 millions d'euros d'après ce que j'ai entendu dire, on se demande où il passe, hein, parce que c'est toujours tagué. C'est toujours repassé. Il y a des trucs qui sont lourds et il y a une problématique qui est mal étudiée, comme beaucoup de problématiques à Marseille déjà.
Donc. Un débat qui vire aux politiques, c'est normal en même temps. Hein, Lionel, le hip-hop, tu disais toi tout à l'heure, toi en tant qu'activiste de la première heure, notamment autour des premières heures de la franchie, issu de la maison. Là, j'ai un trou là d'un coup. À Saint-Marcel, de la,
oui, l'association.
De l'association à Saint-Marcel, Hervalet. Et le projet qui était à l'origine vraiment un projet mené par des, on peut le dire, des activistes qui avaient, oui, aussi une vision politique, et vous avez dû vous confronter aussi, notamment au moment où la franchie a été.
Ah, on a été confrontés, on les a tous tués, c'est clair. Ouais.
En 93, 94, la franchie devient salle de.
Il y a eu des phases diverses et variées, avec des moments plus conflictuels que d'autres, on va dire, tu vois. Et puis des moments plus... En tout cas, tout à l'heure, j'ai écouté la première partie de... Donc avec Gilles.
Avec Gilles
et Julien. Et Gilles disait, bah là, peut-être que comme la franchie va réouvrir, tu vois, on va pouvoir un peu voir, etc. Et je viens de percuter... que c'était ça le truc, c'est que ça offrait une carte de lisibilité, la franchie, tu vois. Et au départ, ça permettait d'avoir une lecture de ce qui se passait. Voilà. Tu pouvais te rendre plus facilement compte, par exemple, qu'il y avait des styles complètement différents et beaucoup plus. Et bon, bref. Enfin, en plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça proposait un espace, quoi. Et dis-toi bien qu'au départ, ben, les politiques ils l'ont bien senti, ça. Tu vois que ça pouvait être un lieu. Donc il y a eu des empêchements terribles, quoi. C'était. Il y a des anecdotes, il y en a plein sur le. Mais bon, sa vie, c'est toujours là. Et ça s'agrandit, et voilà, quoi. Et ça fait référence, et c'est bien.
Pac Jean, tu as eu l'occasion de feuilleter, voire de lire le bouquin de Julien Valnet, toi, MARS ?
Non, pas encore.
Pas encore. Bah, tiens, je te le passe, si tu veux jeter un œil dessus, il y a un très beau cahier photographique. Toi, tu as fait tes premières armes en tant que danseur, à quelle période ? C'était à Marseille ?
C'était à Marseille, à la Castellane, parce que je viens de la Castellane, donc j'ai commencé à danser, bon, on a vu Battle of the Year 99 exactement. Et voilà, c'est ça qui m'a fait rêver, donc du coup, on est parti dans un Porsche, on a commencé à danser, c'est parti de là. Et ensuite, il y a eu un groupe de rap, il y avait La Méthode, il y avait un truc qui s'appelait La Chambre Fermée à l'époque, en fait. Et il y avait plusieurs rappeurs et tout, il y avait La Méthode, moi je dansais avec eux à l'époque, avec La Méthode. Et ensuite, je suis devenu beatmaker, je commençais à faire des sons, je commençais à m'intéresser. On avait un pote qui graffait, on avait un truc qui s'appelait le QG, on avait notre petit coin... Au centre social, on l'avait tagué en traître et tout, on avait mis QG, c'était pas content et tout. Ça venait, ils avaient passé le truc, mais il y avait vraiment une énergie hip-hop. On savait pas vraiment c'était quoi le hip-hop, mais comme on avait un pote, il était graffeur, l'autre il faisait ça, et on faisait tous les trucs ensemble, et ça fait un bon petit truc, c'est des bons souvenirs.
Sik nous racontait que... au milieu des années 80, milieu fin des années 80, il avait dû tout apprendre, pas seul, mais enfin, il avait été guidé aussi, mais voilà, c'était beaucoup de la formation, les gens se formaient eux-mêmes, apprenaient tout ça. Toi, qui arrivais plus tard, est-ce qu'il y a eu des aînés, de la transmission?
Non, c'est exactement pareil. C'est ça que je trouve dommage.
C'est exactement pareil, parce que nous, voilà, on regardait des DVD, des cassettes vidéo, c'était des VHS, ça n'existait pas encore les DVD. On regardait les cassettes vidéo, on était là. Internet, ça venait juste d'arriver, c'était ultra cher, donc on essayait de regarder d'autres trucs, on allait sur les labels, Jeff Jam, je sais pas quoi, machin. Ah ouais, c'est ça et tout, c'est nouveau. Machin, après, le groupe Marseille, on connaissait. À l'époque, Psychiatre, je me rappelle, sortait des petites mixtapes, cassettes et tout, on les achetait, on avait les trucs de Carré Rouge, d'Ayam. J'allais à la bibliothèque aussi, j'ai découvert aussi beaucoup de trucs à la bibliothèque. Au début, j'allais pour des bonbons. Et après, au fur et à mesure, je me suis inscrit, j'ai découvert des trucs, je prenais des bouquins sur le hip-hop, le graphe. C'est comme ça, et c'est comme ça que j'ai connu le hip-hop marseillais, quoi. Mais personne n'est venu me dire, ouais, à nous voyant faire, à nous dire, ouais, les jeunes et tout, c'est bien ce que vous faites, mais il y a ça, ça, les ouais, regarder ça, on a tout fait de nous-mêmes, quoi.
C'est bien, c'est, moi, mon point de vue, là, quand je t'entends, c'est bien aussi, justement, parce qu'il y a un côté initiatique que tu as fait par toi-même.
Extraordinaire.
Et tu vas chercher des trucs, etc., etc. Et ça te permet d'avoir quelque chose. Et tout à l'heure, tu parlais du côté punk et du côté ci et côté là. C'est aussi le fait que, pour la plupart, on n'est pas né dedans, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas né, on nous a pas, dès notre naissance, entendu des sons et tout. Il y a des générations aujourd'hui, mes enfants, pour pas aller chercher plus loin, ils écoutent du son et tout ça. Et tu vois, il y a... Toi, ton côté initiatique, enfin, je le dis comme ça, hein, mais c'est au contraire, c'est bien. Mais tant mieux s'il y a personne qui t'a... tu vois, qui t'a transmis quelque chose, parce que tu es allé toi-même chercher des choses. Après, ceci dit... Il y a quand même toujours eu des ateliers. Namor, il faisait des ateliers d'écriture, il faisait la fin de journée. Il y a toujours eu des possibilités de
transmission. C'est ça que j'avais demandé à Pac-Gin. Est-ce qu'il y avait quand même des endroits, bon, là, il y avait La Friche, il y a eu Logic Hip Hop. Donc ça, c'était un peu... c'était encore Logic Hip Hop, hein, à cette période-là. Ou La Franchie, qui programmait des concerts.
À La Franchie, oui, on allait, je me rappelle, on allait voir des concerts et tout. Je me rappelle, c'était loin, en plus, à l'époque, quand on était jeune, c'était quand même. On avait 17 ans, 18 ans, c'était interdit un peu de... Voilà, on allait en traite, quoi. On allait jusqu'à La Franchise, c'était loin, après on reprenait le bus de nuit. Je me rappelle une fois, on revenait à pied, quoi, d'un concert.
D'accord.
Et toi, pourtant, Saïd, tu donnes des ateliers maintenant. Ouais, tu donnes des ateliers, Saïd, maintenant.
Oui, je donne des ateliers parce que je veux quand même transmettre ce que je sais faire, quoi. Le donner, parce que le hip-hop, c'est, pour moi, c'est donner aux gens, quoi. C'est nous permettre de faire quelque chose et d'aussi d'éviter des dérives, je trouve. Au niveau de la jeunesse, parce que des fois ils rentrent dans un truc, maintenant ils veulent que des thunes, ils pensent plus musique, ils pensent plus graphe, ils pensent meuf, ils pensent succès, ou les meufs passent gars, tu vois, c'est... Ça a perdu le truc revendicateur où on est tous ensemble, peu importe la différence ou ce qu'on fait, mais de dire ouais, c'est différent, mais je kiffe ce que tu fais en fait, parce que c'est différent de moi et que ça nous permet voilà, d'avancer, d'arriver plus fort. Maintenant, je trouve que c'est un peu désuni parce que tout le monde fait la guerre. Ouais, lui, c'est pas assez lyriciste. Lui, c'est psychédélique. Lui, c'est ci, c'est ça. Je pense que c'est un mauvais chemin, quoi.
C'est le nœud gordien du mouvement, de ce qu'on peut appeler mouvement hip-hop aujourd'hui. C'est que c'est bien parce qu'autour de cette table, il y a des gens d'une certaine qualité quand même. Et à un moment donné, je pense qu'on n'a peut-être plus l'énergie pour rassembler ses forces, se réunir, se rencontrer, et discuter, échanger de l'info. C'était ça, le hip-hop. Ouais. Et c'est ça qui te permet, toi, d'aller à un moment donné dans une bibliothèque, de lire, de faire du son. C'est une véritable école, le hip-hop. Et il faut, je sais pas...
C'est ça, mais aussi ça rencontrant des gens que j'ai appris beaucoup, hein, c'est pas...
Ben, oui, mais tu es altruiste. Mmh. Tu fais preuve d'altruisme. Tu es prêt à découvrir. Bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est donc le hip-hop, c'est bien un esprit qui vient de l'altruisme. Hein.
C'est
quelque chose qui vient de l'altruisme, quoi. C'est clair. Et donc on ne peut se rencontrer que entre gens altruistes.
Ouais, hein. C'est ça.
On est autour de la table dans le studio Radio Grenouille pour cette émission en direct dans le cadre du week-end hip-hop. État des lieux au pluriel avec Marc Boudet qui a participé au bouquin Mouvement notamment et puis témoin des débuts à Paris, Sick graffeur marseillais, Pac-Gin DJ beatmaker de la méthode, Lionel Fornini qui est toujours réalisateur on va dire et qui a notamment participé au début de l'aventure de La Franchie, et Julien Valnet, auteur de MRRS, Histoires et légendes du hip-hop marseillais. Et messieurs, je vais vous demander, on va essayer de faire une petite place pour Ferdinand Richard qui vient de rentrer dans le studio. Bonjour Ferdinand.
Bonjour.
Merci de nous donner un petit peu de temps dans ton planning serré. Oui. Et on était en train d'avoir justement, on parlait des histoires de transmission, d'altruisme, de réunion d'énergie et d'ébullition. Et alors il y a une chose qu'on qu'on voit dans le livre de Julien Valnet et ou qu'on entend quand on discute encore aujourd'hui avec des acteurs du mouvement appartenant à diverses générations, c'est que on parlait de l'Affranchie à l'instant, mais la Friche avec les ateliers de Namor par exemple, ou encore le festival Logic Hip Hop, sont régulièrement cités comme des endroits qui ont été importants pour la construction de cette culture. Je crois savoir que pour toi, Ferdinand Richard, tu es directeur de l'AMI, travailler avec les acteurs de ce mouvement, ce qu'on appelle le hip-hop maintenant, ça a été assez déclencheur. Et en tant qu'opérateur culturel aussi, ça, tu as appris beaucoup de choses à ce moment-là, au moment de monter les premiers Logic Hip-Hop.
Oui. Oui, ben, comme chacun sait, j'étais pas grand-père quand le hip-hop a commencé, mais presque, donc on va dire que c'est pas vraiment ma génération. J'ai bien aimé tout ce que tu as dit, tous les thèmes que vous avez évoqués là. Moi, je vais un peu embêter tout le monde, je vais parler de droit. Voilà, parce qu'en fait, plus j'y pense, plus cette histoire qui s'est passée autour du hip-hop à Marseille, enfin à la Friche Belle de Mai au début en tout cas, est liée à la question du droit. J'espère que je ne vais ennuyer personne. L'article 1, pas le 2, hein, le 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit ». Et être égal en dignité, ça veut dire, pour faire court, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de culture dominante. Donc ça, il faut se l'appliquer. Voilà. Et si tu démarres un truc comme la Friche en 92, tu dois te l'appliquer. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc moi, en 92, je ne connaissais pas grand-chose au hip-hop. Encore que, en 79, j'ai fait mon premier voyage à New York. Bon, moi, j'avais un groupe de rock comme plein de gens, quoi. Et j'étais hébergé par des gens pas loin du village. Et j'ai découvert des gens qui tournaient sur la tête, des trucs étonnants, quoi. Enfin, j'ai senti qu'il y avait une espèce de nouvelle culture qui arrivait, à laquelle je comprenais pas grand chose, mais quand même j'ai vu des choses. En vrai, en 79, hein, c'était vraiment le début. Et après, quand je suis revenu ici, quand en 92 on a commencé la Friche, j'ai ressenti, j'ai dit, ah bah tiens, c'est la suite. Plus de 10 ans plus tard, hein, c'est la suite. Alors, Rebelle était déjà en culotte courte, hein, c'était vraiment des petits, IAM, c'était vraiment des tout petits. Mais c'était quelque chose, je sentais que c'était le fil de mon histoire en fait, parce que moi quand j'ai commencé à faire du rock à la fin des années 60, on avait un peu pratiquement les mêmes problèmes que les gamins que je voyais arriver au début de la Friche, hein. C'est toujours pareil, où est-ce qu'on répète, qui c'est qui nous écoute, comment on diffuse ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit de faire les choses qu'on a interdites, parce que tu sais, il y a beaucoup d'interdits dans la musique, hein. Tu dois faire comme ci, tu dois pas faire comme ça, tu dois pas mélanger ci, tu dois pas mélanger ça. Et là, d'un seul coup, je voyais arriver des choses presque musique contemporaine. Parce que ce que font certains DJ avec des vinyles, les gens de la musique contemporaine l'ont piqué. Tu vois, des gens qui ont repris cette idée d'oser mélanger des styles, des musiques qui normalement ne vont pas ensemble. Et à partir de ça, tu resculptes. C'est comme une sculpture. Tu refais un espèce de son. À partir de choses, tu mélanges tout, c'est hyper créatif. Donc moi, je me suis arrêté à ça. J'ai même pas calculé d'ailleurs l'histoire des quartiers au début. Parce que la dimension quartier du hip-hop, au tout début, 90-92, c'était pas évident.
Non, mais
c'était ouais. Pas un truc de quartier.
C'est il y quelque avait chose qu'on retrouve dans... Il y a un bouquin voilà. De Karim Amou qui s'appelle « Une histoire du rap en France », qui parle du rap, mais qui dit qu'en effet, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais au tout début... Enfin, il a fallu quelques années avant que, notamment par les médias, dit-il, le hip-hop soit identifié comme une musique de banlieusards et
de pauvres et de banlieusards
venant du quartier. Ouais.
Ce qui est pas ça, parce que les premiers vraiment qui ont ramené les trucs des États-Unis et tout, qui sont allés eux physiquement et qui ont acheté des vinyles et tout, qui sont revenus, c'était pas forcément des gens des quartiers. Les premières émissions hip-hop de Rebelle, c'était pas destiné aux quartiers. Il y avait des gens de partout. C'était très fédérateur. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant. Donc c'est vrai qu'après ça a été un emblème pour les gens des quartiers ici. Et ils ont bien eu raison de se le prendre, hein, parce que c'était leur étendard, il fallait qu'ils le prennent. Mais ça doit rester quelque chose d'ouvert. Il n'y a aucune raison que ça soit considéré comme une musique de l'exclusion, tu vois, des gens qui, bon ben voilà, c'est tout ce qui leur reste, il leur reste le hip-hop. C'est pas ça, c'est trop négatif ça. C'est une musique de création, c'est une musique noble, il faut la défendre en tant que telle. Et en plus, c'est pas qu'une musique, bien sûr, puisqu'il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses qui sont pas de la musique. Donc moi, c'est pour ça que j'ai défendu ça. Après, moi, je suis pas du hip-hop, hein, voilà. Mais s'il arrivait un autre truc du même style qui s'appellerait le hip-hoop, je le prendrais pareil. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça sort et comment ça dépasse les règles établies. On est dans un milieu, les musiques actuelles, la musique en général, qui est hyper conventionnelle. Hyper conventionnel, hyper conservateur. Les structures des musiques actuelles aujourd'hui, c'est conservateur. C'est pas du tout progressiste. Chaque fois qu'il sort quelque chose qui amène un progrès, il se heurte aux difficultés, aux barrières et tout. Je considère que mon travail, et mon équipe avec, c'est d'aider ces gens qui se heurtent aux barrières. Après que ça me plaise ou pas, que c'est ça que j'écoute chez moi quand je suis dans ma salle de bain, ça regarde personne. Voilà, c'est mon affaire à moi, c'est privé.
Merci Ferdinand Richard. Alors maintenant, l'AMI organise toujours un événement annuel qui s'appelle Village Hip Hop, oui. Mais la structure a globalement, on va dire, c'est peut-être pas le centre de gravité de ses activités, mais il y a une couveuse d'entreprises, de jeunes entreprises. Il y a pas mal d'activités. Ça depuis longtemps été le cas, mais une bonne partie, plus grosse partie aujourd'hui des activités de l'AMI est sur peut-être, on va dire, de l'aide à la structuration, quoi. Est-ce que ça veut dire aussi que après cette expérience logique hip-hop et en voyant comment ces différentes difficultés auxquelles se confrontent les jeunes ou moins jeunes qui veulent faire des choses, vous êtes plutôt dit, il faut plutôt aider plus que la diffusion peut-être, il faut d'abord aider les gens à apprendre à structurer un minimum leur activité, avoir des armes et des outils pour...
Je ne veux pas être en position dominante par rapport à aucun artiste. Donc c'est pas moi le manager, c'est pas moi la maison de disque, c'est pas moi qui vais dire tiens voilà un peu de subvention que je te redistribue. Ça c'est interdit, c'est pas bon. Il faut que les jeunes du hip-hop ou d'autres musiques, les créateurs, il faut qu'ils se donnent de l'autonomie par rapport à ce qu'ils fabriquent et par rapport à ce qu'ils diffusent. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient leur boîte, il faut qu'ils aient leur label, il faut qu'ils aient leur distributeur, il faut qu'ils aient leur professionnel. S'ils n'ont personne autour d'eux, eh ben ils vont venir mendier de temps en temps. Tu ne peux pas me donner ci, tu ne peux pas me donner ça. Le vrai problème de tous les artistes ici, parce qu'on est loin de Paris, hein, on est loin des journaux, des médias, des maisons de disques. Le vrai problème de tous les artistes ici, pas que musique et pas que hip-hop, c'est qu'ils se donnent les moyens d'avoir leur propre business et que ce business survive, qu'ils arrivent à manger avec ça. Intermittent, on va se battre, hein, mais tout le monde ne va pas vivre avec l'intermittence. Les subventions, on sait ce que ça veut dire. Il faut monter des business indépendants. Voilà, il faut que les gens montent leur label, montent leur structure et que tous ces gens-là travaillent ensemble, pas se fassent la guerre, travaillent ensemble et trouvent des marchés mondiaux. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux très bien faire des choses ici à la Savine et les vendre au Japon, sans passer par personne. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut explorer. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette couveuse d'entreprise, où il y a d'ailleurs des gens qui portent des expériences de hip-hop, d'accord, mais pas que. Parce qu'il faut que ces gens s'autonomisent. Là, le problème des jeunes artistes, c'est qu'ils ne sont pas autonomes. Il faut toujours qu'ils passent par une structure au-dessus, des patrons de ceci, de cela, les politiques, les machins. Ça, c'est pas bon pour vous. Il faut absolument construire cette autonomie financière, j'allais dire.
Merci à tous. Pac Jean va passer aux platines, si tu veux bien. On peut faire un dernier tour de table, si vous voulez rebondir. Marc Boudet, Sik, non, pas de réaction particulière. Lionel Fornini, Julien Valnet, merci à tous d'avoir participé à ce moment. On a un petit peu dépassé sur le timing, mais il y a un second moment de débat à venir dans une quinzaine de minutes avec Emmanuel de Radio Grenouille au micro et ses invités. Pac Jean va passer aux platines parce que le hip-hop, c'est aussi ça. Et la radio, il faut le dire, est quand même C'est un petit, le hip-hop est à la radio comme le poisson est dans l'eau, j'ai envie de dire quoi. Hein. Donc il y a des et la moutarde au steak, rajoute Ferdinand Richard. Donc évidemment cette soirée, on est ensemble en direct jusqu'à 1h du matin à peu près. Il y a plusieurs DJ qui vont venir se succéder aux platines et à partir de 21h, c'est l'émission Sam et Sam de Radio Galère en direct sur Grenouille et sur Galère depuis nos studios et plusieurs poignées et enfilades de MC de la scène marseillaise qui vont venir, on l'espère, freestyler sur les mix des DJ que nous avons invités ce soir. C'est Pac Jean à suivre. Restez calés avec nous, vous êtes toujours en direct sur le Weekend Hip Hop du 88.8 Radio Grenouille.
Marseille Hip Hop 2014, état des lieux.
Samedi 1er et dimanche 2 mars,
un week-end hip-hop sur les 3-8.
Plus d'infos sur le www.radiogrenouille.com.